tous. Bonjour à ceux qui sont sur Internet. Et que Dieu vous bénisse. C'est une belle journée déjà, hein? Ça commence bien. On va lire Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. Nous sommes depuis quelque temps dans le sermon sur la montagne. Et là, vendredi, je vous ai parlé sur le fait que Jésus a dit « Vous êtes le sel de la terre ». Mais aujourd'hui, il dit « Vous êtes la lumière du monde ». Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Est-ce que vous vous rendez bien compte de ce que Jésus dit là à ces gens qui sont des villageois, des gens tout simples, et comme nous, des villageois? Il dit, vous êtes la lumière du monde. Aujourd'hui, on dirait, oui, il les flatte. Non. Quand on lit, on va voir ça en détail, quand on lit Jean chapitre 8, verset 12, un autre sermon de Jésus, il dit, je suis la lumière du monde. Là, on comprend mieux. Mais quand il dit « Vous êtes la lumière du monde », il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Plus tard, une autre fois, juste avant de guérir un aveugle, Jésus dit « Pendant que je suis dans ce monde, je suis la lumière du monde. » Vous trouvez ça dans Jean 9, chapitre 9, verset 5. Quand on prend tous ces textes, Jésus est en train de dire, pendant que je suis dans ce monde, je suis la lumière du monde. Autrement dit, je suis la lumière du monde tant que je foule cette terre avec mes pieds. Aujourd'hui, Jésus n'est plus dans ce monde. Alors on peut dire, voilà, il n'est plus la lumière du monde. Il est monté au ciel, il s'est assis, et il n'est la lumière que de ceux qui le suivent, qui marchent avec lui, qui fonctionnent avec lui, qui suivent son enseignement. Est-ce que vous me suivez? Vous avez vu les textes qu'on a lus? Si on les prend séparément, voilà, ils sont très jolis, mais quand on les prend ensemble, on voit l'idée générale, l'idée que Jésus veut donner. Il est la lumière de ceux qui suivent son enseignement. Il dit, celui qui me suit, qui me suit, ne marchera pas dans les ténèbres, c'est-à-dire dans ce monde. Vous vous rappelez, la dernière fois, je vous ai dit, d'après Jésus, il y a le monde. C'est une communauté, ils vivent en communauté ensemble, ils se débrouillent pas trop mal, ça dépend où. Ici, on est du bon côté de la planète, mais il y a des endroits, c'est horrible. Et puis, il dit, vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire que ce monde n'a pas de lumière, ou très peu, et puis nous sommes la lumière du monde. Alors, on est en minorité, c'est ça. Donc, seul celui qui marche, qui fonctionne, qui progresse avec Jésus a de la lumière, a Jésus pour lumière. Ça ne doit pas vexer les incroyants puisqu'ils s'en fichent. Hein. Mais nous avons cette assurance. Il n'est plus la lumière du monde, c'est nous la lumière du monde parce qu'il est en nous, il nous éclaire et nous maintenant notre devoir c'est d'éclairer les autres. Ça veut dire que celui qui ne suit pas le Seigneur Jésus-Christ, il est dans les ténèbres. Mais ils ne savent pas qu'ils sont dans les ténèbres. Ils sont nés comme ça, ils vivent comme ça. Voilà. Et puis, ils sont contents. Quelqu'un qui n'a jamais vu du rouge, qui n'a jamais vu clair, il ne peut même pas savoir ce que ça veut dire de voir. J'ai parlé avec des anciens aveugles après avoir prié pour eux, ils ont retrouvé la vue, j'aurais dit, mais c'était comment? On ne peut pas expliquer. Il n'y a plus de lumière dans ce monde, sinon celle que nous avons reçue. C'est ça que Jésus veut nous faire comprendre. Jésus ne dit pas, je suis la lumière du monde et vous êtes une lumière, un petit néon qui clignote dans un coin. Non, non. Il n'y a qu'une lumière, c'est Jésus. Il dit, je suis la lumière du monde. Alors les gens pourraient penser, voilà, c'est un prétentieux. Non, il dit la vérité. Il a dit, je suis la vérité, je vous dis la vérité et tout. Par exemple, Bouddha, que j'aime beaucoup, je lis beaucoup de choses, il dit, il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Il a dit, je cherche la vérité, je ne l'ai pas trouvée. Lui, Son corps, le corps de Jésus, est hors de ce monde parce qu'il est monté au ciel avec son corps. Il n'est plus dans ce monde avec son corps. Il est monté avec son corps au ciel. Il ne marche plus sur cette terre, mais son esprit vit en nous. Il a mis son esprit en nous. Du moins, si vous l'avez reçu, son esprit, il est en vous. Et si son esprit vit en vous, vous êtes l'actuelle lumière du monde. Ma mère, quand elle était sur la terre, elle était la lumière du monde. Maintenant qu'elle est partie, elle n'est plus. Bon, il reste un souvenir. Il reste aussi un souvenir de ce que Jésus a dit, de ce que Jésus a fait. C'est très inspirant. Mais la lumière dont on a besoin pour marcher tous les jours, dans notre travail, dans nos relations les uns avec les autres, toutes les réponses ne sont pas dans la Bible. Il faut aller chercher en communion avec notre Dieu qui vit en nous. Bien sûr, il vit au ciel, mais bon, c'est une expression parce que Dieu, lui, n'a pas de dimension. Il n'y a pas de hauteur, de largeur, de longueur. Il n'y a pas de passé, de présent, de futur. C'est un esprit, c'est quelque chose qui nous dépasse. On ne peut pas comprendre. Si vous avez lu Bernard Werber, Les fourmis, vous êtes à même de comprendre un peu mieux ce que c'est que la personnalité de Dieu. Une fourmi ne peut pas comprendre ce que c'est qu'un homme. Ben nous, on ne peut pas beaucoup comprendre ce que c'est que Dieu. Mais un jour, il y avait un petit garçon qui était avec un cerf-volant. Et la ficelle montait très haut, le cerf-volant montait très haut, puis il y avait du brouillard. Et un monsieur lui dit, qu'est-ce que tu fais là avec ce bout de ficelle dans la main? Il dit, ben je suis en train de m'amuser avec mon cerf-volant. Il dit, mais il n'y a pas de cerf-volant. Il dit, si, il y en a un. Il dit, mais je ne le vois pas. Il dit, oui, mais moi je le sens. Vous voyez, peut-être vous ne voyez pas Dieu, mais moi je le sens. Je suis en contact avec. C'est ça la question. On est ou on n'est pas? Bon, Jésus brille par vous, c'est ce qu'il est en train de dire. Jésus éclaire les gens par vous. Il n'a pas d'autre main que les vôtres, il n'a pas d'autre sourire que les vôtres. Il réchauffe les cœurs des gens par vous. Il guérit les malades par vous. Il délivre les possédés par vous. Voilà ce qu'il est en train de dire. Tout ce qu'il a fait pendant qu'il était sur cette terre, il a dit, vous le ferez parce que je serai en vous. N'a-t-il pas dit ça? Bien sûr qu'il l'a dit. Alors, on n'a pas reçu son esprit pour autre chose. On n'a pas reçu son esprit pour aller poser son derrière dans les églises et chanter des cantiques et lever les mains et dire Alléluia ou se rouler par terre ou je ne sais quoi dans certaines réunions. On n'a pas reçu son esprit seulement pour parler dans des langues qu'on n'a pas apprises. On n'a pas reçu le Saint-Esprit que pour ça. On a reçu le Saint-Esprit pour être la lumière de ce monde. Tout le reste, c'est bien. Par exemple, le fait de parler en langue, c'est très bien. L'apôtre Paul dit, c'est pour vous édifier vous-même. Mais pourquoi s'édifier? Ben pour pouvoir aller vivre correctement dans le monde en tant que lumière. Mais ben pas pour se fortifier, pour rien. Cette lumière qui brille par vous, c'est la même lumière qui brillait au travers de Jésus. Jésus a dit, moi je ne peux rien faire de moi-même. Et nous aussi, on peut dire, nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Quand on se trouve devant un malade, on est bien démuni. Mais par la puissance qui est en nous, on peut lui apporter quelque chose, une guérison. Non? Mais ce n'est pas nous. Cette lumière qui est en vous, c'est Jésus en vous. La Bible dit, Jésus-Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Il dit, tout ce que j'ai fait, vous pourrez faire de même, et même encore des choses plus grandes. Je réfléchissais à notre frère Osborne. Jésus, il a vécu un ministère de 3 ans, 3 ans et demi. Osborne, ça fait depuis l'âge de 17 ans, et il a 89 ans. Il a réuni des foules allant de 200 000 à 300 000 personnes dans le monde depuis. Chaque année, chaque réunion, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes guéries. Il en a fait plus que Jésus. Vous voyez que Jésus ne ment pas quand il dit « ce que j'ai fait, vous pouvez le faire aussi ». Mais heureusement, c'est quelqu'un qui a compris, qui a appris, qui a dit « voilà, je m'attache à ça » et il s'attache qu'à ça. Il s'attache à son ministère. Il a cru et il fait. Alors maintenant, il faut que nous réalisions qui nous sommes, quelle est notre identité. Ou alors être des chrétiens du dimanche. On peut, hein, Jésus ne va pas nous envoyer en enfer parce qu'on est seulement des chrétiens du dimanche. Mais quand même. Ça pourrait être mieux. Alors écoutons ce que le maître a à nous dire ce matin. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que cette lumière, ce sont nos bonnes œuvres. Il dit, on vient de le lire, que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vos bonnes œuvres, C'est quoi? Ben, ce sont toutes ces choses que vous dites, que vous faites, parce que vous aimez Dieu, parce que vous aimez les gens, parce que vous aimez la nature. Ces bonnes œuvres, ce sont toutes ces choses que vous manifestez par votre foi, à cause de votre foi en Jésus-Christ. Ce sont pas que des miracles. Les miracles, c'est le gâteau sur la cerise. Ce n'est pas que les miracles faire les œuvres de Jésus. Jésus n'a pas fait que des miracles, il a aussi été très très gentil. Il a pardonné cette femme qui était prise en flagrant délit d'adultère. Charmant. Elle était toute seule pour faire l'adultère. Hein? Marrant ça. Vous avez vu, les religieux, ils ont amené cette femme vers Jésus, on l'a pris en flagrant délit d'adultère. Pourquoi ils n'ont pas pris l'homme? Elle devait bien être avec un homme pour faire l'adultère. Hein, ils étaient trop trouillards, peut-être pas assez balèzes pour prendre le bonhomme, ils ont pris la bonne femme. Ah, c'est minable. Jésus dit, non, va, tes péchés sont pardonnés. Vous voyez? Est-ce qu'elle a demandé pardon? Non, même pas. Il est bon. Ça, c'est une bonne œuvre, d'accord? Ok. Et elle en a fait plein d'autres encore. Ce ne sont donc pas que les miracles, ce sont aussi des actions qui peuvent être plus ou moins discrètes, comme par exemple, hein, se lever de table pour débarrasser la table, sans qu'on vous le demande. C'est peut-être aussi faire quelque chose avant que quelqu'un d'autre soit obligé de le faire, sans que ça soit écrit au programme. Et puis, c'est aussi être gentil, c'est tolérance et toutes ces choses-là. Bien que le mot tolérance n'est pas dans la Bible, mais bon, il est sous-entendu. C'est toutes ces actions de prévenance, ce sont toutes ces actions que les gens ne voient pas forcément, mais Dieu voit. Et puis, il voit aussi vos intentions. Généralement, dans la Bible, la lumière est le symbole de la vérité. Hein, si vous prenez la symbolique biblique, la lumière, en général, ça signifie la vérité. Et il y a une ancienne prophétie, on va la lire, c'est dans Ésaïe 42, 67. 42, 6 à 7, pardon, où il est dit « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. » Alors, en général, les chrétiens pensent que c'est uniquement de Jésus dont il est question là, hein. D'ailleurs, là, dans ma Bible, les théologiens ont mis une annotation pour dire que voilà, c'est Jésus. « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Cette prophétie, mes frères et sœurs, ne concerne pas que Jésus-Christ. Elle concerne toute personne qui témoigne au sujet du salut que Jésus-Christ nous a acquis. Vous êtes la lumière du monde, comme Christ était la lumière du monde dans son temps. Je sais que, au temps de Luther, j'aurais été brûlé pour ça. Hier soir, j'ai regardé avec mon épouse, on a regardé un excellent film, on va l'acheter d'ailleurs, sur la vie de Luther. Ils se battaient parce qu'à l'époque, l'Église vendait des indulgences. Vous ne savez pas ce que c'est, les indulgences, hein? C'est formidable. Ça existe encore, hein? C'est encore un dogme. Bon, mais ils n'osent plus trop faire les marioles avec ça. Mais voilà, si vous avez fait l'adultère, par exemple, vous donnez tant à l'Église et puis vous êtes pardonné. Ça se monnaie. Votre salut, votre pardon se monnaie. C'était les indulgences. C'était. Voilà. Alors, Luther s'est soulevé la contre. Il a protesté. Il a protesté. Voilà. Puis on est là aujourd'hui. On est un peu plus de près de 600 millions de protestants maintenant. C'est pas mal. C'est pas mal. Un petit bonhomme comme ça, tout ça. Un moignon. Il a bien fait de protester. Il faut protester. Donc, le salut, maintenant, nous l'apportons. Nous disons les mérites de Jésus. Nous expliquons que c'est parce que Jésus nous a acquis le salut que maintenant nous pouvons être sauvés. Il a payé pour que nous puissions être sauvés. Il nous suffit simplement d'entrer dans cette sorte de foi, de croire qu'il a fait ça pour nous. Croire qu'il a fait ça pour nous, c'est l'honorer. Quand on croit ça, on l'honore. Et puis à partir de là, on conforme notre vie à ce qu'il veut, à sa volonté, qui n'est pas pénible. Moi, je dis que c'est beaucoup plus pénible de conformer sa vie à la volonté de la communauté du monde. C'est terrible. L'évangélisation, donc, elle compte en premier parmi les bonnes œuvres. Parce que c'est par l'évangélisation que la lumière transparaît le plus. Frères et sœurs, un disciple de Jésus, il doit savoir donner un enseignement juste au sujet de la foi. Un disciple de Jésus-Christ, il doit savoir créer la foi dans le cœur de quelqu'un. Du moins, en tout cas, de donner envie d'avoir la foi. Il doit savoir ensuite fortifier cette foi naissante, la protéger dans le cœur de ces gens. C'est en fait le seul moyen que nous avons de témoigner que nous sommes vraiment chrétiens. Parce que, mes frères et sœurs, les terriens font aussi les bonnes œuvres. Je dis les terriens parce que Jésus, il a dit, vous n'êtes pas de ce monde. Alors, si on n'est pas de ce monde, on est des extraterrestres, puis les autres, c'est des terriens. Ça, c'est ma doctrine à moi, hein. c'est pas sérieux, c'est pour rigoler, mais... Les terriens. Moi, j'en connais des terriens qui sont très généreux parce qu'ils veulent s'attirer les faveurs de Dieu. Ils pensent que s'ils donnent, alors Dieu va inscrire tout ça dans le livre, puis qu'au jour du jugement, ils seront sauvés à cause de ça. Erreur! C'est pas comme ça qu'on est sauvé, ça se monnaie pas. C'est Jésus qui a payé le prix, on ne peut pas payer le prix. D'autres sont généreux parce que c'est pour avoir des amis. Comme ça, ils sont sûrs de s'attirer des amis. D'autres, ils font des bonnes œuvres pour qu'on les loue, pour qu'on les honore, pour qu'on parle d'eux, etc. D'autres, et ça c'est terrible, ils donnent pour humilier ceux qui reçoivent. Mais j'en connais, hein, c'est terrible. Vous voyez, ils ont une façon de donner quand vous, vous recevez. Vous sentez tout minable, tout humilié. C'est terrible. Vous savez, il y a toutes sortes de subtilités parce que, comme la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. C'est terrible. Alors, vous, il faut que les gens sachent que c'est pour glorifier Dieu uniquement que vous faites les bonnes œuvres. Ce n'est pas pour vous glorifier vous-même, ce n'est pas pour vous acheter une place au paradis, c'est pour rien d'autre que pour glorifier Dieu. Le seul moyen pour que cela soit, eh bien, c'est de témoigner audiblement de votre foi. Sinon, les gens vont dire « Ah, mais est-ce qu'il est bien, ce Franck ? Mais est-ce qu'il est gentil ? Est-ce qu'il est serviable ? Mais il est adorable, il était bien élevé, louange à ses parents, louange à Franck !» Non, 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 non. Si Franck commence à dire que c'est parce que Jésus a changé sa vie, parce qu'il se conforme à la volonté de Dieu, parce qu'il obéit au commandement de Jésus, parce qu'il trouve que Jésus est un bon maître, ah, à ce moment-là, les gens vont dire « Ah, hein ?» Et puis s'il raconte comment il était avant, la fripouille, cette fripouille de Franck, comment il est devenu, alors là, les gens vont commencer à dire, ah ben oui, depuis qu'il connaît Dieu, depuis qu'il connaît la Bible, c'est devenu quelqu'un de bien. Ils ne vont pas se convertir pour autant, mais des fois ça arrive que des gens se convertissent parce que nous avons un bon témoignage. Vous savez, dans les 10 commandements, il y a une première partie qui insiste sur l'honneur, le nom et la parole de Dieu. Et puis ensuite, la deuxième partie des 10 commandements, c'est au sujet de nos devoirs les uns envers les autres. Croire, enseigner, confesser la vérité, la lumière, puisque la lumière c'est Dieu, ça fait partie de la première partie du sermon sur la montagne. Ce sont les bonnes actions qui témoignent de notre régénération à cette génération qui se perd. Ça témoigne de notre nouvelle naissance qui a pu être par le Saint-Esprit, que c'est un miracle, nous sommes changés par Dieu. Ce n'est pas une philosophie à laquelle on a adhéré. Parce qu'on témoigne clairement de notre foi. Et puis ensuite, nos bonnes actions, ça ne se limite pas aux choses de la foi, mais nos bonnes actions doivent aussi avoir la dimension de l'amour. Parce que vous avez des gens qui vous balancent l'évangile avec tellement d'aigreur et tellement de méchanceté, que ça vous fait fuir. Nos bonnes actions doivent donc premièrement manifester notre attachement à Jésus-Christ, puis ensuite notre amour que nous avons pour nos semblables. Il faut que les gens se rendent compte que si on leur parle, ce n'est pas pour qu'ils deviennent comme nous, dans la même secte, ou dans le même machin, le même club, ou le même... Ce n'est pas pour ça, c'est parce qu'on sait qu'après la mort, il y a deux endroits où aller, le paradis et l'enfer. On le sait. Et on leur dit par amour, mais on n'essaye pas de leur faire peur avec ça. Vous avez des prédicateurs qui font ça tout le temps. Oui, si vous ne venez pas à Dieu, vous irez griller en enfer. Et il y en a même qui secouent les chaînes dans les églises. C'est terrible, c'est ridicule. Si on ne vient pas à Dieu parce qu'on a peur, on vient à Dieu parce qu'on découvre que c'est une personnalité aimante. C'est seulement là que les terriens verront la vérité, et ils glorifieront Dieu. Si nous ne faisons pas des actions d'amour envers les gens, ce que nous faisons perd de sa valeur. Ce que nous disons perd de sa valeur. Si on témoigne de notre foi en cherchant à coincer les gens avec dureté, en les menaçant, en les forçant, sans amour, eh bien, Dieu perd son honneur. On est en train de déshonorer notre Dieu. Donc, il faut faire attention à la façon dont on parle, quelles sont nos intentions quand on parle de Jésus aux gens. Parce que vous avez des chrétiens qui rendent témoignage parce qu'ils vont rendre témoignage. Mais ce n'est pas normal. C'est pas, au mieux qu'ils se taisent, ceux-là. On rend pas témoignage parce qu'il faut. On rend témoignage parce qu'on est pressé par l'amour. On veut que ceux qu'on aime soient sauvés. On veut que ceux qu'on aime soient éternellement avec nous. C'est pour ça qu'on parle. Ce n'est pas pour autre chose. Maintenant, comme pour le sel, Jésus affirme, quand il dit « Vous êtes la lumière du monde », qu'il y a une condition. Vous êtes le sel, c'est vrai, mais il y a une condition. Il ne faut pas que le sel perde sa saveur. Puis vous êtes la lumière, mais la lumière, votre lumière, elle doit briller devant les hommes. Parce que, bon, vous êtes une lumière, mais vous savez, si je mets la lumière dans une boîte à chaussures, puis que je mets le couvercle dessus, ça brillera toujours, mais ça fera bien à personne, sinon à la boîte à chaussures. Ça signifie aussi quelque chose de terrible, que cette lumière peut devenir ténèbre. C'est-à-dire que vous vous baladez, vous avez la lumière en vous, mais personne ne la voit, c'est ténèbre. Et Jésus dit que si c'est ténèbre, à la force, à la fin, votre œil va tomber malade, c'est-à-dire votre regard sur les choses, sur les gens, sur les situations, votre œil va être en mauvais état, parce que vous ne l'utiliserez pas correctement, parce que vous n'aurez pas un regard juste sur les gens, sur les situations, sur ce qui se passe. Votre œil, Jésus dit, si ton œil est en mauvais état, ton œil sur la vie, ton regard sur les gens, ton regard sur les événements, ton regard sur toi-même, eh bien, si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Ton corps va réagir et tu vas tomber malade. C'est pour ça qu'on voit tant de chrétiens un peu... On dira, les chrétiens, ce n'est pas la lumière du monde. Hein. Ils n'ont pas inventé le fil à couper le beurre, ni la poudre à je ne sais plus quoi. Si donc ta lumière, Jésus dit, qui est en toi, est ténèbre, combien grandes seront tes ténèbres? Matthieu 6, 23. Tu as la lumière, mais si la lumière en toi est ténèbre. La lumière qui est en nous, on peut l'attrister. La lumière, dont vous avez compris, Jésus a dit, je suis aussi la lumière du monde. La lumière, c'est une personne. On peut l'attrister par des actions qu'on pose et qui ne sont pas dans la foi et qui ne sont pas dans l'amour. Le Saint-Esprit, la Bible nous dit qu'il est attristé. Et cette lumière devient ténèbre. C'est comme ça que les gens l'aperçoivent comme des ténèbres. Alors on a le devoir d'être visible, de démontrer notre foi, de démontrer notre amour dans nos actes, dans notre témoignage, de ne pas cacher la lumière qui est vous. Alors c'est vrai qu'il y a un temps pour tout. Je me rappelle au mariage de Mélodie, on était je ne sais pas combien, on était nombreux, hein. On était là, dans ce grand hôtel qu'on avait loué, la fête battait son plein, les plats défilaient, les bonnes bouteilles aussi. Et puis la plupart, on avait beaucoup d'invités qui étaient des incroyants, parce qu'on a beaucoup d'amis qui sont incroyants. Et ils avaient un peu bu. Et alors, tout à coup, il y a un prédicateur que j'avais invité qui dit comme ça, « Oh, mais il faut les évangéliser, maintenant, il faut arrêter tout, puis il faut leur parler de Jésus. » Je dis, « Non, c'est pas bon, c'est pas le moment, regarde, ils font la fête, c'est un temps pour toute chose. » Mais enfin, quand même, si cette nuit, il y en a un qui meurt, il va en enfer. Je dis, « Mais Raphaël, enfin, voilà, j'ai dit son nom, c'est Raphaël. » Il dit, « Mais vous connaissez tous Raphaël, il a le cœur, il est magnifique. » Mais il n'est pas toujours très sage, comme moi d'ailleurs. Alors il dit, et sa femme lui dit, « Mais oui, tais-toi, il a raison, il y a un temps pour toute chose, la Bible dit, il y a un temps pour toute chose. » Ah, heureusement, il y avait un verset de la Bible qui disait qu'il y a un temps pour toute chose. Hein? Alors donc, ça en était sauvé, et comme ça, on a pu continuer la fête. Et de toute façon, tous nos amis, on leur a parlé déjà de Jésus. Ce n'était pas le moment de le faire. Et parfois, il vaut mieux gagner la confiance des gens, et puis en agissant de façon normale, mais tout en gardant notre foi intacte et notre vie intacte. Et ensuite, on peut leur parler, parce que sinon, on peut fermer leur cœur par manque de sagesse. Il aurait plombé la soirée. Hein. Jésus, il a comparé Jean-Baptiste à une lampe qui brûle. Et qui luit dans les ténèbres. Vous trouvez ça dans Jean 5, 35. Et il dit que c'est ce que nous sommes aussi. Qu'est-ce que faisait Jean-Baptiste? Jean-Baptiste annonçait la première venue de Jésus. Et à nous, il est confié le message, nous annonçons la deuxième venue de Jésus. Jésus a dit que quand Israël redeviendrait une nation, la génération qui verra ça verra le retour de Jésus. Je suis absolument persuadé que les gens de ma génération verront Jésus face à face. Avant, ils verront l'Antichrist. Hein. Et il y en a beaucoup qui se tromperont, ils suivront l'Antichrist, ce sauveur mondial, la mondialisation formidable, tout ça. Mais ils seront séduits par lui. Mais Jésus-Christ va revenir, on le sait. Ça fait 2500 ans qu'Israël n'était pas redevenu une nation. C'est en 48 que la prophétie s'est accomplie. Non seulement c'est devenu une nation, mais il reparle la langue qu'il parlait alors. Mais ça ne s'est jamais produit dans le monde, une histoire pareille. La place de la lumière n'est pas sous le boisseau. Un boisseau, c'est une boîte, si vous voulez, qui sert à mesurer la capacité de grain qu'on veut vendre ou qu'on veut utiliser. C'est une boîte. Le boisseau, il est utile, mais pas pour la lumière. C'est comme un chausse-pied, c'est utile, mais pas pour manger. La lumière, elle se pose sur un chandelier, du moins à l'époque de Jésus. Le chandelier, il est placé en haut, sur un lieu élevé. Là, on a des chandeliers, bon, je bronzais avec ça, là. On ne doit pas cacher la vérité. La lumière que nous connaissons, la vérité que nous sommes, nous ne devons pas cacher ça. Alors, il y a des chandeliers. Qu'est-ce que c'est les chandeliers ? Les chandeliers, ce sont ceux qui aident la lumière. C'est ceux qui portent la lumière. C'est ceux qui soutiennent la lumière par leur don d'argent, par leur prière, par leur amour, par leur respect qu'ils communiquent aux autres. Ils portent la lumière. Quand je parle de frère Osborne, je suis un porteur de lumière. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand j'envoie de l'argent pour la mission, je suis un porteur de lumière. Par exemple, moi, je vais en Afrique pour prêcher, pour prier pour les malades. Bon, je ne pourrais pas y aller s'il n'y avait pas des gens qui soutenaient, qui portaient le ministère dans la prière et dans le soutien financier. Ça, c'est des chandeliers. D'accord ? Vous voyez, mes frères et sœurs, nous avons tous affaire dans l'œuvre de Dieu. Moi, j'ai commencé par être un simple chandelier, et puis après, j'ai commencé à être la lampe, la lumière elle-même, et je suis la lumière elle-même, mais en même temps, je suis le chandelier de certains autres. Vous comprenez ? Jésus a dit « Je suis le berger », il a dit aussi « Je suis la porte », il a aussi dit « Je suis la parole comme une épée ». Nous sommes toutes sortes de choses, on n'est pas seulement ceci, il a dit « Vous êtes le sel, vous êtes la lumière », on est toutes sortes de choses pour qu'on comprenne quelles sont toutes nos fonctions. On ne peut pas dire « Moi je suis que la lumière et je ne fais rien d'autre ». Non, 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 on a toutes sortes de fonctions sur cette terre et c'est magnifique, mais même si vous ne savez pas prêcher, eh ben vous pouvez au moins soutenir ceux qui prêchent, dans la prière, avec deux balles de temps en temps, avec votre dîme. Mes frères et sœurs, chaque fois que vous faites un don d'argent, c'est utile à la lumière. Quand je vais arriver devant Dieu, Dieu ne va pas dire « Ah, Michel Janton, le voilà, il arrive, regardez, poussez-vous, regardez, voilà un homme qui a été faire des miracles en Afrique, extraordinaire. » Non, il ne dira pas ça. Il dira, regardez les petites grands-mamans qui ont soutenu Michel pour qu'il puisse aller faire les simples choses, les seules choses qu'il sait faire, mettre ses mains sur les malades. Pendant ce temps, les petites grands-mamans, elles se sont peut-être privées de gâteaux et de trucs pour pouvoir donner. Vous comprenez ? Elles ont fait quelque chose d'important. Donc tout le monde aura sa récompense. Vous voyez, mes frères et sœurs, ce que je veux dire ? Tout le monde aura sa récompense. C'est un travail collectif. Nous sommes le nouveau corps de Jésus-Christ sur la terre. L'Église, c'est le nouveau corps de Jésus-Christ sur la terre. Alors peut-être aujourd'hui, vous êtes la main, mais demain, vous serez peut-être le pied. On est des fois le sel, des fois la lumière, des fois le chandelier. On a toutes sortes de fonctions d'utilité dans le corps de Christ. Ne pas donner sa dîme, ne pas donner ses offrandes, c'est empêcher la lumière de briller. Ou du moins, c'est amoindrir son influence. Moi, je connais des serviteurs de Dieu, j'en connais un dans le midi. Alors, il n'y a personne qui le soutient. Alors, il bosse toute l'année. Il bosse. Il met de côté l'argent et il va pour prêcher. C'est magnifique. C'est magnifique ce qu'il fait. Mais s'il s'était entouré avec des personnes qui l'aiment et qui soutiennent son ministère, il n'aurait pas besoin d'aller bosser comme ça toute une année pour aller travailler 15 jours en Afrique. Il pourrait aller 3-4 mois en Afrique. Vous comprenez ? Ça serait beaucoup plus productif. C'est ça que je veux dire. Il faut comprendre ces choses-là. Donc, il y a les porteurs de lumière, les chandeliers. Les chandeliers ont les mains en haut aussi. Alors, Jacques, il parle, en parlant de ça, il parle de ceux qui amassent les riches, qui amassent des trésors, mais qui frustrent les ouvriers de leur salaire. Alors, il dit que ce salaire-là, dont ils ont frustré les ouvriers, ceux qui vont travailler dans le champ de Dieu, ils crient devant Dieu, ce salaire-là. Et eux, pendant ce temps, ils vivent dans la volupté. C'est Jacques, hein, c'est pas moi. Mais je suis bien d'accord avec lui. Ils vivent dans la volupté, dans les délices, ils rassasient leur propre cœur au jour du carnage. Mais c'est un carnage sur la terre. C'est un carnage. Là, il y a quelque temps, je vais aller dans un pays africain, on m'a dit, non, faut pas venir, c'est trop dangereux, ils vont te tuer. J'ai attendu que ça se calme, puis j'y suis allé un petit peu après, et c'est grave de grave, on prend des risques. Il y a un carnage. Le diable chôme pas, lui. Il n'a pas pris sa retraite encore. Et il frustre les ouvriers de ce qui doit leur revenir, de ce qu'il devrait leur donner. Chaque fois que vous ne semez pas votre dîme dans l'œuvre de Dieu, dans le champ de Dieu, vous empêchez la lumière d'atteindre les perdus, les malades, ceux qui sont possédés, ceux qui sont dans les besoins, ceux qui vivent dans l'ignorance et à cause de cela, dans la peur. Alors vous aurez des comptes à rendre à Dieu pour ça. Mais tout le monde aura des comptes à rendre pour Dieu. Mais mon rôle, ce n'est pas de vous chatouiller les ailes, mon rôle, c'est de vous dire la vérité afin que vous pratiquiez la vérité. Si je suis là seulement pour vous chatouiller les ailes, non, les faux prophètes le font très bien. Ça paraît terrible, hein? Mais le diable, comme je vous dis, ne chôme pas, les ténèbres s'épaississent d'une façon considérable. La lumière a de plus en plus de peine à percer dans ce monde pour arriver jusqu'aux pauvres, pour arriver jusqu'aux perdus, pour arriver jusqu'aux malades. De plus en plus de peine. Ah, ça, les grandes églises, les méga-églises, comme on dit, hein? Avec des centaines de milliers de membres, des choses extraordinaires. Ah oui, ça c'est formidable, mais la mission, c'est ça qui est le plus important. Je préfère avoir une petite église ici, mais des millions de gens sauvés ailleurs, par la mission. Et ici, c'est comme un atelier. On travaille pour qu'ensuite, on ait suffisamment pour aller apporter là-bas. Ça, c'est beau. Mais le contraire, j'aime pas du tout. Ces grandes méga-églises, tous ces gens qui sont là, alléluia, et puis après, quoi? Alors, ne vous rendez pas coupable en plaçant la lumière sous le boisseau, c'est ce que Jésus le dit. On peut la mettre sous le boisseau par avarice, par méchanceté, par négligence, par manque de foi, par bêtise. Par manque de foi, c'est très souvent, c'est pas par manque de foi en Jésus que les gens donnent pas, c'est par manque de foi dans le serviteur de Dieu. On veut pas donner au serviteur de Dieu parce qu'on dit, oh, on sait pas ce qu'il fait avec l'argent, lui, ouf, non, je veux pas donner. Mais c'était pareil déjà du temps de Moïse, hein. Ça n'a pas changé. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Une église qui ne veut pas briller dans le monde, ce n'est pas une église qui obéit. Et mes frères et sœurs, nous avons à vivre ouvertement notre vie qui est décrite dans les béatitudes que je vous ai enseignées ces derniers jours. Alors seulement là, ceux qui nous regardent pourront voir ce qu'il en est de croire en Dieu. Et ils lui rendront gloire. Ils verront. Ils seront amenés à croire que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes et non pas simplement parce qu'on a été conditionnés. On est tous conditionnés. Moi, je préfère être conditionné par Jésus. Non ? Le vin est conditionné. Je préfère que ça soit dans une belle bouteille, dans un carton. Ben dans le monde, c'est un carton, excusez-moi. Mal fichu. C'est mal fichu. Ça devient dramatique. Regardez les chiffres, c'est épouvantable ce qui se passe sur la terre. Vous me direz, oh ben dans l'église aussi? Non, pas dans la vraie église. Pas dans la vraie église, non. C'est pas vrai. Dans l'imitation, oui, dans ceux qui font du cinéma, oui, là, oui, d'accord. Vous avez toutes sortes de choses, d'horreur. Il ne faut pas tout mélanger, hein. Il ne faut pas tout mélanger. Les gens doivent voir que notre lumière, c'est sa lumière. Ils doivent voir que nos actions, ce sont ses actions. Ainsi donc, la lumière qu'ils apprécieront, ils apprécieront la lumière et non pas le chandelier. Vous voyez ce que je veux dire? Ils adoreront le Père céleste et ne glorifieront pas les enfants de Dieu. On a un petit air de famille, mais c'est surtout Dieu qu'ils glorifieront. C'est ça qu'il faut. Chaque fois que je prêche, que je prie là-bas, et je sais qu'il va y avoir des guérisons, je sais qu'il y a des aveugles qui vont retrouver la vue, je sais qu'il y a des paralytiques qui vont marcher, je m'applique à bien leur expliquer que je n'ai pas, moi, quelque chose de spécial. Il faut, parce que sinon, les gens, après, ils vous idolâtrent. Il faut bien expliquer les choses. Et puis alors, Ceux qui continuent à nous insulter, à nous considérer comme des imposteurs, ben, ils ne pourront pas s'empêcher de rendre gloire à Dieu quand même un jour ou l'autre, à cause de la justice même pour laquelle ils nous font du mal et de la peine. On a vu beaucoup de témoignages, si vous lisez les témoignages au sujet des gens qui sont persécutés dans les pays totalitaires, il y a beaucoup de bourreaux qui sont troublés et il y en a pas mal qui se convertissent à Jésus-Christ en voyant comment les chrétiens sont dignes dans la souffrance. Frères et sœurs, vous n'êtes pas rien du tout. Vous n'êtes pas rien du tout. Alors que les méchants attendent votre échec, alors qu'ils grincent des dents contre vous, alors qu'ils vous accusent à tort, eh bien vous savez en qui vous croyez. C'est ça qui est important. Vous savez qu'il vous a purifié. Il vous accuse de choses fausses, il vous accuse peut-être aussi de choses vraies, mais vous savez que Jésus-Christ vous a purifié. Il a mis en vous sa vie miracle, cette lumière qui change les gens de bonne volonté. S'ils ne sont pas de bonne volonté, s'ils ne veulent pas vous pardonner le mal que vous avez fait ou qu'ils supposent que vous avez fait, ça les regarde, qu'ils restent dans leurs ténèbres. Vous allez de l'avant parce que vous savez que votre Dieu vous a pardonné. Amen. Même si, parce qu'on peut dire, voilà, quand on est visible, on est atteignable. Comme disaient les vampes, on est attentable. Mais non, on n'est pas attentable réellement. Parce que nous sommes entourés d'une protection invisible, mes frères et sœurs. Jésus nous affirme, il dit, rien ne peut vous nuire. Il me dit, oui, mais il y a des gens qui meurent à cause du nom de Jésus. Oui, mais est-ce que c'est vraiment une nuisance pour eux? La Bible dit, Jésus dit, celui qui meurt, c'est son corps qui meurt, mais lui ne meurt pas. Et l'apôtre Paul dit, je préfère m'en aller vers mon Dieu. C'est difficile de vivre ici. Oh, quand on est jeune, c'est super. Tout marche bien, tout va bien, c'est génial. Mais quand on vient vieux, on se réjouit, hein, Simone? Non, c'est vrai, on réjouit. Ah là là, Seigneur, j'ai 61 ans, c'est super, j'ai fait au moins les deux tiers. c'est formidable, c'est parce qu'on sait qu'il y a mieux après. Donc rien ne peut me nuire, rien. Jésus dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps. Craignez par contre celui qui peut tuer l'âme. Et celui qui peut tuer l'âme, c'est pas Dieu, c'est le diable. Le jour vient, mes frères et sœurs, où Jésus essuiera toute larme de vos yeux. C'est vrai. Avec ses mains percées. Alors, comme Jésus a dit un jour, encore un peu de temps et ils ne nous verront plus. Encore un peu de temps et ils ne nous verront plus. Mais pendant qu'il est encore temps, faisons les œuvres que Jésus veut que nous fassions. Soyons gentils les uns avec les autres. Soyons compatissants. Soyons efficaces dans nos bonnes actions. Soyons positifs. Soyons généreux, soyons des gens dignes de notre Père céleste. Amen. 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 Gloire à Dieu. Seigneur, nous nous levons et nous te bénissons pour ce message tout simple que tu m'as donné. Nous te bénissons parce que nous allons pouvoir prendre des choses là-dedans pour pouvoir améliorer notre façon de vivre, notre style de vie, l'image que nous donnons dans ce monde. Merci Seigneur Jésus de nous permettre d'être réellement ce que tu attends que nous soyons dans ce monde. Que ton nom soit béni, Père. Je te remercie parce que tu te révèles dans le cœur de chacun. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus, afin que chacun puisse savoir quelle est son identité profonde, spirituelle. Merci, mon Seigneur. Merci parce que nous sommes tes créatures et que tu nous l'as fait savoir. Merci, Seigneur, parce que tu nous attires à toi. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Amen.